française avec Francophane sur le www.francophaneavecas.fr. Les auteurs, compositeurs et interprètes sont dans la scène française avec Jean-Marc.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison.
Elle était stagiaire, bonne à tout faire, le café, les photocopies. Moi je la trouvais très jolie.
Des rires, j'entends des cœurs, j'entends des atmosphères. Des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire, c'est dans le tempo.
Le meilleur de la scène française.
Le monde merveilleux de Gaby est dans la scène française aujourd'hui. Gaby, bonjour.
Bonjour, bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs.
Donc tu es avec nous d'abord pour faire ta connaissance et pour parler également de ton album Le Monde de Gaby. Tout d'abord, je te propose, pour bien planter le décor, d'écouter un premier morceau de cet album.
C'est un grand coup de botte qu'ils ont brisé la porte. On te tient l'étranger, l'enfer, les crânes rasés. J'ai vu leurs uniformes sur leur ventre difforme et leur grande barre de fer traînant dans la poussière. Il y avait cette air à la radio, je crois que c'était un vieil air tango.
Les auteurs, compositeurs et interprètes sont dans la scène française avec Jean-Marc.
Voilà donc, Gaby est avec nous dans la scène française, Gaby et son monde. Gaby, tu es originaire d'où ?
Écoute, en fait, j'habite à une trentaine de kilomètres de Paris, dans les Yvelines, dans un tout petit village à la campagne. Donc j'arrive à en fait combiner les quelques avantages de la ville et surtout le grand plaisir d'être à l'air frais et de profiter des champs.
Je regardais un petit peu, ton parcours professionnel est assez éclectique, hein, avant que tu te lances vraiment dans la musique, hein, tu as été avocat. Alors pourquoi avocat et pourquoi ne pas avoir continué à être avocat?
Bah, moment donné, il fallait bien gagner sa croûte. Donc moi, j'ai vraiment commencé la musique il y a une vingtaine d'années. Hein, quand j'avais 14-15 ans, j'ai toujours composé, j'ai toujours fait des maquettes. Je me suis toujours pris des énormes claques avec les maisons de disques. Et de fil en aiguille, si tu veux, bah soit je me lançais encore plus à fond dans la musique, mais avec cet a priori de se dire mon coco, ça va pas être évident de te débrouiller dans ce monde-là, ou essayer d'avoir un boulot à côté pour continuer à pouvoir acheter du matériel de musique, pouvoir payer les studios, et puis maintenant payer les musiciens. Donc c'est un double boulot que j'ai fait un peu de manière contrainte, mais c'était aussi parce que bon, très honnêtement, la musique marchait pas assez, voire pas du tout pour me permettre d'avoir des revenus pour vivre, quoi.
Oui, mais le fait d'être avocat, donc ça implique bien sûr des études. C'est vraiment ce que tu voulais faire au début ou pas?
Bah, je me suis retrouvé, tu sais, à la fac de droit, comme ça, c'était pas vraiment ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment me lancer dans la musique. J'avais fait aussi pas mal de... Je faisais aussi un peu DJ à l'époque, mais bon, je vivotais, quoi. Donc le fait d'être devenu avocat, ça m'a donné un boulot fixe, et puis ça m'a permis aussi, tu vois, de passer aussi à la vitesse supérieure, d'avoir aussi assez d'argent pour me payer un beau studio, faire un vrai album, bosser avec des vrais pros, alors qu'avant c'était toujours un peu les combines à droite à gauche, et c'était des maquettes qui passaient vraiment pas tu vois, en termes de qualité, c'était toujours un peu de l'amateurisme, et c'était un peu approximatif, quoi.
Et aujourd'hui, donc, le fait d'avoir exercé cette fonction, ce métier d'avocat, ça te sert un petit peu dans tes affaires ou pas?
Ouais, c'est clair, parce que t'as, déjà, je continue toujours un petit peu à côté aussi, mais c'est sûr, ça te donne, tu fais beaucoup plus attention, tu fais un peu moins gaffe aux mythomanes, parce que dans le monde des avocats, t'as affaire aussi à des gens toujours un peu bizarres parfois, donc t'es un peu plus méfiant, tu fais un peu plus gaffe, t'apprends aussi des méthodes de travail, être assez rigoureux dans les trucs que tu fais, donc tout ça, ouais, c'est quelque chose que t'apprends, puis aussi une rigueur de tu vois du boulot de d'avocat que je retrouve aussi quand je bosse avec mes musiciens et dans la musique. Donc il y a c'est une manière de travailler qui est finalement pas forcément très différente de musiciens professionnels, donc c'est un truc qui est assez compatible, en fait.
Avocat, puis donc tu l'évoquais tout à l'heure, tu as été DJ, donc tu travaillais en boîte, tu faisais
ouais, j'en ai fait monsieur les soirées baptême, barnisa, anniversaire, ouais non, j'ai fait ça quasiment pendant 10 ans, donc c'était sympa tant que t'étais un peu encore, on va dire, un grand adolescent attardé ou étudiant, parce que ça te fait toujours un peu de blé, c'est du black, c'est vrai que l'odeur des billets dans l'enveloppe à la sortie de soirée, c'est pas la même qu'une vraie fiche de salaire, mais c'était pareil, à un moment donné c'était vivoté, mais on s'est bien marré. Je fais ça avec un pote pendant une dizaine d'années, donc on a fait quelques boîtes, beaucoup de soirées étudiantes sur Paris, parce que ça bouge pas mal, il y a beaucoup de, tu sais, de gros bureaux qui ont les moyens, en fait, et donc tu peux quand même pas mal tourner avec le bouche-oreille. Et puis nous, ça nous permettait aussi de voir un peu la musique qui passait, les trucs un peu tendance, ce qui marchait jamais, enfin je dis pas que ça polluer ou influencer ma musique, mais c'est vrai que du coup ça t'aide un peu à réfléchir, à te dire, tiens, pourquoi ces trucs là marchent à chaque fois, pourquoi ça finalement ça marche pas tant que ça, donc c'est assez marrant, quoi. Et surtout ça te donne aussi un a priori vachement moins snob, parce que tu vois que c'est toujours les bonnes vieilles recettes qui passent en soirée, et quel que soit le milieu, quelle que soit la soirée, manchouille ou pas, tu fous en Claude François, ça marche du tonnerre.
C'est ça, oui, c'est vrai que dans ce milieu là Claude François c'est l'éternel. Et si on n'a pas le petit cloclo dans la soirée, ça va pas, en fait.
Mais voilà, tu vois, même des gens qui au début te diront, ah non, on veut pas ça, il y a toujours le gros tube ou le gros machin qui marche, quel que soit le milieu, quel que soit les âges. Donc c'est assez rigolo, parce que toi du coup t'as une oreille musicale qui est vachement plus aussi, qui devient aussi très populaire, et tu enrichis un peu ta culture musicale parfois, ça te sort un peu des sentiers battus, donc ça c'est une expérience assez sympa. Puis après j'ai fait pas mal de radio aussi, avec des moyens les moyens du bord, puisque je me souviens parfois on faisait des émissions radio, et on s'apercevait qu'en fait les metteurs n'avaient pas marché, donc on faisait de la radio virtuelle, c'était toute une galère à l'époque, en plus on n'avait pas de bagnole, je crois que je faisais une heure de vélo pour aller, mais c'était vraiment une passion, quoi. C'est un truc assez magique de se retrouver derrière, donc moi j'avais un de mes potes à l'époque qui était derrière le bocal, comme on disait, aux manettes. puis j'ai reçu plein de stars, on disait un peu has-been, mais beaucoup de chanteurs des années 70. On avait reçu Était une fois, Alain Turban, Topalov, enfin toute la clique, Christian Delagrange.
Oui.
Et mais bon, enfin tu vois, nous c'était pour moi c'était même si c'était has-been, c'était déjà une chance de recevoir des gosses. Ils avaient des anecdotes absolument incroyables. Et puis tout has-been qu'ils étaient, c'est des mecs qui à leur époque ont vendu 1 million à 15 millions de disques. Donc tu vois, c'était les années 70, c'était quand même le truc où tu faisais un petit tube en radio, ça se vendait, mais comme des petits pains, quoi.
Comme Patrick Hernandez, qui lui n'a fait qu'un tube dans sa carrière.
Ah ouais, c'est monstrueux.
Et qui est monstrueux. C'est un garçon qui n'a fait qu'une chanson et il peut ne pas travailler.
Ah oui, non, mais c'est monstrueux. Et puis attends, il y a encore deux ans, là, toute la campagne Schweppes, il était, c'était encore lui, quoi. Enfin, c'était son gros tube, Born to Be Alive, remixé sauce un peu plus dance. Et le truc, il a fait encore des campagnes de pub avec son truc. Non, mais c'est monstrueux. Lui, là. Il a eu un coup de génie, quoi.
Bon, on aura bien compris un peu ce parcours éclectique. Tu as fait ça, tu as fait de la radio. Et puis, bon, un jour, tu t'es dit, bon, ça y est, là, il faut y aller. Je vais vraiment faire de la musique.
À un moment donné, on se trouve toujours un peu des excuses et on veut pas se mettre en danger. Et puis là, je me suis dit, bon, bah, écoute, mon coco, tu vas, puisque tu trouves pas de producteur, puisque les portes des majors et Dieu sait maintenant que c'est encore de... Moi, j'étais encore à une époque où, si tu veux, il y a encore 15 ans, tu téléphonais un directeur artistique, t'avais un entretien, puis tu présentes, tu venais vendre ta soupe, quoi. Maintenant, c'est barrage et compagnie. Donc, je me suis dit, bah, écoute, bah, très bien, moi, tu vas mettre des sous de côté, tu vas t'écrire ton truc, tu vas trouver tes musiciens, tu vas pas attendre que quelqu'un te produise ou te signe, et tu vas faire vraiment ton album de A à Z. Donc, ça a été une aventure qui a pris quasiment 2 ans et demi, 3 ans, parce que bon, bah, faut mettre des sous de côté, faut trouver la structure, faut trouver l'équipe, les musiciens pros, pour les réunir c'est jamais facile, il y en a des sympas, il y en a des pas sympas, mais finalement j'ai pu trouver un studio sur Paris, un gars qui avait fait ingénieur du son pendant une quinzaine d'années, qui avait monté son propre studio, mais quand je dis monté, vraiment fabriqué, quoi. Il a fait lui-même toute l'ensonorisation, il a choisi le matériel, enfin vraiment un passionné de musique, et puis il a été assez séduit par un peu par mes maquettes et mon projet, et puis du coup bah, il m'a fait rencontrer des musiciens, et puis quand on rencontre deux sympas, en général ils t'en font rencontrer d'autres, et bah, c'est comme ça qu'un jour j'ai eu la chance de bosser avec l'ingénieur du son de Prince, R, tu vois, qui est Bruce King, qui est un mec qui travaille sur d'énormes projets, mais qui aime bien, qui a toujours un peu beaucoup de tendresse, je dirais, pour les autoproduits, et qui est venu bah, mettre un petit peu sa papate finale sur l'album, travailler un peu le son des cordes. Enfin, c'est un mec, c'est un artisan du son, c'est-à-dire que tu t'installes derrière lui, tu le vois sculpter le son, quoi. C'est absolument incroyable, un son de guitare que ça passe entre ses mains, c'est vraiment 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 un artisan du son. Et puis d'autres gars, c'est sympa, comme Michael Oyon qui est un guitariste de Renault, Zazie, et qui est venu aussi poser des riffs de gratte, enfin toute une équipe. Juju Music aussi, qui est un mec qui a dû faire, je crois, 7000 séances de studio et de concerts partout en Afrique, et qui est venu comme ça faire un peu de percu sur métier. Donc c'est assez chaque fois c'est des rencontres par enregistrement en studio, je savais pas trop. Bon, moi j'avais fait beaucoup de home studio, mais c'est vrai qu'il y a le moment où tu enregistres qui dure pas très longtemps, puis bon, avant t'échanges, et puis après t'échanges, et puis du coup bah c'est une petite équipe que j'ai commencé à constituer. Et puis il y a deux autres guitaristes, Philippe Calfon, qui est un mec qui tourne avec Nord NH3, qui a démarré Typhoon avec Goldman à l'époque, qui m'a rejoint sur scène, et puis on essaye de se faire quelques peu de dates, parce que bon, c'est toute une galère, mais des belles dates. Donc là, on devrait faire bientôt le New Morning. Et puis, bien sûr, on voudrait bien un peu bouger en province, mais bon, faut que l'album marche.
Voilà, ben justement, parlons. Bon, je vois, tu t'es entouré de sacrées pointures au niveau des musiciens. Mais parlons donc de cet album, Le Monde de Gabi. Alors, comment s'est déroulée sa création? Tu l'as pensé, écrit tout seul?
Alors en fait ouais j'ai acheté il y a 3-4 ans de ça, il y a Yamaha qui a, enfin je sais pas si on peut faire de la pub à l'antenne, mais qui a sorti ce qui s'appelle des workstations. C'est un mélange en fait de synthétiseurs et aussi de boîtes dans lesquelles t'as des arrangements rythmiques déjà préprogrammés, mais des vrais samples de guitare, t'as accès à toute une batterie de sons. Et moi j'avais un peu mis pendant longtemps, j'ai beaucoup bossé la musique par ordinateur et j'en avais un peu marre parce que tu fais que des boucles, tu fais que du sample, t'es un peu privé de tout ce qui est un peu improvisation. Et là, dans un seul clavier, tu peux tout faire, tu fais ta maquette et du coup, j'avais plus ce qui est un appareil que je pouvais transporter partout. J'avais plus ce côté compliqué des branchements avec l'ordinateur, parce que t'as vite fait de te retrouver avec une usine à gaz entre les branchements MIDI. Enfin, je sais pas, pour ceux qui font de la musique, ils doivent un peu savoir de quoi je parle. Et cette machine, en plus, avait un son absolument incroyable. Donc, ça permet vraiment de faire des chansons de A à Z. T'as plus les yeux rivés sur un écran, donc tu peux vraiment improviser. Et du coup, pendant un an et demi, deux ans, j'ai pondu. Après, de temps en temps, tous les trois mois, je faisais venir des potes à la maison, leur disant, moi, laquelle dans le tas, là, je vous en fais écouter 10, laquelle vous préférez. Et puis, une fois qu'il y en avait une dizaine qui avait l'air de faire un peu l'unanimité, je suis allé en studio. Et là, donc, je suis déjà arrivé, tu vois, avec des morceaux qui étaient construits, qui tournaient la route. Mais bon, bien sûr, ça fallait mettre des vrais instruments là où il fallait. Donc, qui explique un peu le côté un peu aussi électro de certains passages un peu électro de l'album, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été aussi faites à la maison. Et je suis arrivé, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a un morceau avec des guitares gypsy, puis derrière une bonne vieille basse techno, parce que j'avais ça sous le coude. Donc, ça fait un truc assez hétéroclite, mais ça a pris 3 ans, quoi, en fait.
Donc là, c'est sur le plan musical. Alors l'écriture, tu travailles comment? Tu t'inspires de quoi en général pour l'écriture de tes textes?
C'est marrant, ça paraît totalement ésotérique, mais c'est souvent des flashs. Malheureusement ou heureusement, c'est vraiment tu marches dans la rue et puis d'un seul coup t'as un flash, quoi. T'as des riffs qui viennent. Je n'attends rien. C'est venu vraiment, l'air m'est venu comme ça dans la tête. Donc vraiment, tu vois, les notes de base. Alors parfois c'est juste les notes de basse. Ça va être un rythme comme ça et puis 3-4 mots en général qui sont assez répétitifs, qui tournent. Et puis l'air te lâche pas pendant une semaine, deux semaines. Puis là tu te dis mince, si ça me lâche pas, c'est que il y a matière à développer. Donc après tu fais toute l'orchestration autour. Mais en général, ouais, c'est un peu comme ça. Alors parfois, bon, t'as une bonne idée que tu développes, mais c'est souvent ce genre de chansons là qui naît d'un espèce de flash comme ça, un air comme ça qui devient comme ça le matin avec 2-3 mots un peu entêtants qui en général sont les chansons qui au final sont les plus abouties et puis que tu retiens et puis que les gens aiment bien. Alors bon, malheureusement ça se contrôle pas, quoi. Tu peux pas te mettre derrière une feuille de papier en attendant que ça vienne. Donc bien sûr, il y a aussi d'autres manières de composer qui sont un peu plus, bon, avec la bouteille on sait aussi faire des chansons, mais en général c'est le côté un peu spontané qui est souvent le plus attachant pour toi, parce que c'est des chansons qui te quittent plus et puis qui plaisent aussi aux gens, parce que c'est vraiment quelque chose qui est venu comme ça spontanément de toi, que t'as couché sur le papier, mais c'est quelque chose qui ne se commande pas en fait souvent, ouais.
En fait, donc le monde de Gabi, c'est ton, parce que Gabi c'est toi, c'est en fait c'est ton nom de scène, hein, Gabi, c'est ça?
Ouais, tout à fait, ouais.
Alors en l'occurrence, cet album, ça raconte quoi? Une partie de toi, une partie de ce qui t'entoure, ta vie en général, ça raconte quoi?
Vraiment, je pense que c'est le cap de la trentaine. Franchement, si. Enfin, moi, j'avais pas. En écoutant les gens, un peu de feedback que j'ai, c'est vrai que ça parle beaucoup du temps. Ça parle du cap de la trentaine. Donc c'est un peu la génération Minitel, parce qu'il y a un hommage plus ou moins caché, mais aux années 80 avec Denis Thérèse, où je me suis amusé à reprendre tous les sons des années 80 et puis bon, les faire un peu sonner comme maintenant, mais donc tu vois, il y a un peu la nostalgie des années 80, il y a le fait d'être devenu papa, donc il y a une chanson sur l'amour filial, il y a un peu des histoires de rupture, enfin c'est un peu une mise au point du cap de la trentaine qui, bon bah voilà, faut accepter à un moment donné qu'on aura plus 20 ans et qu'on a quelques cheveux blancs, donc c'est un peu un pont entre les 20 ans et puis le cap des 40 ans. Ça me fait frémir.
Ah, mais c'est...
Ça fait peur.
T'as quand même pas peur de vieillir, si?
Non, c'est toujours une angoisse. D'autant plus avec ce milieu, tu sais, enfin le milieu de la musique, c'est assez marrant parce que quand tu commences à passer le cap de la trentaine, déjà il y a plein de tremplins auxquels tu peux plus participer, il y a plein de concours auxquels t'as plus accès parce que t'as des limites d'âge, et puis tu sens qu'il y a beaucoup de jeunisme quand même dans les chanteurs qui sont lancés. C'est quand même bon, il y en a quelques-uns grâce à tout ce qui est côté un peu scène française, on commence à admettre que bon, quand t'as de la bouteille, c'est aussi que t'as un peu d'expérience et que tu sais chauffer une salle et que t'as aussi l'expérience derrière. Mais c'est vrai que t'as quand même aussi une tendance à vaut mieux à parfois avoir 22, 23 ans qu'un peu plus de 30 ans et quelques cheveux blancs. Donc c'est aussi cette angoisse. L'angoisse du temps qui passe, ouais, ça.
Mais si on prend l'exemple de chanteurs comme Goldman, Cabrel, ce sont des gens qui ont eu de la notoriété après 30 ans, hein.
Là, je m'en rends pas compte, j'ai toujours l'impression que Goldman, ils sont tellement, enfin, jeunes, c'est des gars sur lesquels le temps ne passe pas, hein. Enfin, tu vois, Cabrel et Goldman, bon, ok, tu te dis maintenant, ils ont 50 piges, mais, moi, je trouve que physiquement, ils sont super bien conservés, musicalement, ils sont restés constants dans leur truc, en fait. Ouais, moi, je pensais qu'ils avaient percé plutôt vers 25, 26, quoi.
Et non, c'est à 30 ans que le succès est arrivé, bon, ils avaient quand même de la bouteille musicalement, mais c'est le succès, hein, je parle de succès, la notoriété, en fait, est arrivé à 30 ans, et puis il y en a d'autres aussi. C'est vrai que maintenant, bon, on a tendance à aller chercher des chanteurs ou à proposer des chanteurs un peu plus jeunes, entre 20 et 23 ans.
Ouais, c'est mais chapeau, hein, je veux dire, moi je suis effaré, je suis pas trop fan des émissions de Starac, mais l'autre fois j'ai jeté un œil, t'as un chanteur, hein, t'as un gamin qui a 10, enfin pour moi je dis gamin, je parle comme un vieux con, mais chapeau parce que quelqu'un qui a 19 ans se retrouve, je crois qu'il a fait un duo avec Kylie Minogue. Eh ben, le gars, il a pas bronché, il avait vraiment la pêche, il avait, tu vois, il avait du charisme, il plaçait bien son truc, le petit look qu'il faut. Moi, je suis parfois aussi sidéré de voir la maturité que peuvent avoir certains artistes dès 19 ou 20 ans. Là où parfois, bah, faire une chanson, c'est pas si facile que ça, trouver son style, son identité vocale, musicale, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et là, quand t'as affaire à des artistes comme ça, déjà, tu vois, déjà confirmés avec un univers, ouais, vraiment de la maturité à 19, 20 ans, c'est assez impressionnant, quoi. Donc,
oui, mais dans ce genre d'émission, ouais, la part de création n'existe pas du tout, quoi.
Ouais, non, je regarde ça, mais je veux pas non plus. Ouais, je veux pas non plus casser, hein. J'aurais eu 18, 19 ans, je me serais inscrit au casting de Starac, tu vois. J'aurais fait comme tout le monde pour essayer de réussir dans la musique. Donc,
j'ai vu cette saison quand même à Star Academy, je crois que c'est à Star. Il y a un candidat qui a 35 ans.
Oh la vache, c'est le présentateur, non?
Non. Et le plus jeune ou la plus jeune a 16 ou 17 ans et le plus vieux a 35 ans. Donc, tu as encore tes chances.
Tout n'est pas perdu.
Je te propose d'écouter Denise Thérèse que tu évoquais tout à l'heure et on se retrouve après donc pour clôturer l'émission, d'accord?
Ok, impeccable.
J'aimerais tant que tu comprennes tout ce que j'ai fait pour toi. Les cover pages de magazines que je ne lisais même pas. Je suis devenu un androgyne, j'ai perdu trop de poids. Je me suis teint blond platine car tu aimais les Suédois. Denise Thérèse.
comprenne tout ce que j'ai fait pour toi. Le pire ayant été sans doute de sortir ton pékinois. Le matin, le midi, le soir, qu'il pleuve ou qu'il fasse froid. Quand tu m'as mis au placard, devant du pépère au chinois.
Avec Francophane sur le www.francophaneavecas.fr.
Alors, Gabi, donc le monde de Gabi, c'est l'album de notre ami Christophe. Gabi, alors Gabi, Christophe, Christophe c'est ton vrai prénom et Gabi c'est le nom de scène, c'est ça?
Ouais, c'est le nom de scène et bon, c'est un peu pour des raisons personnelles que j'ai pris ce nom de scène, mais.
Tu étais fan de Bachung peut-être aussi, non?
Ouais, non, ouais, c'est vrai que ça sonnait, non, mais ça sonnait bien, et puis, c'est un pseudonyme auquel j'étais particulièrement attaché, puis ça a bien collé, et puis ça collait bien avec les, je sais pas pourquoi, ça faisait, d'un seul coup, ça faisait un tout assez homogène, avec aussi un peu, bon, on est à la radio, les gens peuvent pas voir les dessins qu'a fait Géraldine Le Poivre pour la pochette de l'album,
mais c'est vrai,
ils vont sur, s'ils vont sur le MySpace, le monde de Gabi, bon, ils verront les dessins qu'a fait Géraldine Le Poivre, et, bon voilà, ça c'était pas c'était même pas une approche marketing, c'est je me sentais bien quoi, voilà, quand je suis sur scène et que les gens sonnent Gabi, ça va avec les ça va bien avec mon univers musical et un peu visuel, donc voilà quoi.
Parlons de cet album, faisons la promotion de cet album car il faut que tu vendes des albums, d'accord? Alors, est-ce que c'est ton premier album tout d'abord?
Bon, on va dire que c'est le vrai premier album qui a été distribué avant Studio, j'ai toujours travaillé mes maquettes comme des albums, c'est-à-dire fait des 12 ou 13 titres. Mais bon, j'avais jamais pu trouver de distribution à l'époque. Et maintenant, voilà, la distribution. Donc, il faut être très patient parce que l'album, on a dû finir de le boucler, je dirais, en janvier ou février. Et donc, tu vois, tous les 2-3 mois, tu cumules un peu des contrats de distribution. Donc, maintenant, je crois que l'album est en vente sur toutes les plateformes internet, que ce soit iTunes, Virgin, Fnac, Mega. Enfin, maintenant, il est très facile à trouver. Sur télécharger légalement, j'insiste, sur internet. On le trouve aussi en vente par correspondance sur un site qui s'appelle Nightly Music, qui est le label en fait à Montpellier, sur Montpellier avec lequel je travaille. Et puis il y a plein d'autres sites. Il suffit d'aller en fait sur ma page, il y a tout est expliqué. Et puis la distribution dans les bacs, normalement, je croise les droits, mais ça devrait être début décembre pour tout ce qui est l'ouest de la France et Paris, et on va remonter sur le nord vers le janvier-février, puisqu'en fait c'est un peu une double actualité, parce que je participe aussi à un projet dont je voudrais un petit peu parler, parce que je trouve que c'est un beau projet. On a fait un petit collectif d'artistes et on a fait une compile en fait qui s'appelle Offrons l'école, dont les recettes sont reversées à une ONG qui s'appelle Offrons l'école, et qui, comme son nom l'indique, en fait a pour objet d'aller en Afrique et de construire en fait avec les font récolter des écoles, donc voilà, à peu près tu vends 3000 disques, tu peux construire une école là-bas. Donc le projet, on l'a trouvé assez sympa. Alors bon, sur cette compile, il y a de tout, hein, tu vois, il y a les Gypsy King, il y a Coralie qui est une ancienne chanteuse, enfin toujours chanteuse des Hellfire, qui est venue chanter, une finaliste de Popstar, puis d'illustres inconnus comme moi. Mais bon, je trouve que l'initiative est assez sympa, et donc ces compiles-là vont être aussi dans les bacs et elles sont déjà aussi en vente sur internet, donc bon, c'est l'occasion d'écouter des artistes connus, de découvrir des inconnus, puis surtout c'est sympa parce qu'il y a des gamins qui après peuvent aller à l'école. C'est quand même un chouette, une association qui fait des chouettes trucs, je trouve.
Bon, les maisons de production de disques, ça pour l'instant t'es satisfait ou pas? Pour oui, si ton disque est distribué, donc tu dois être automatiquement satisfait.
C'est déjà une énorme galère, c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile de trouver des distributions, puisque c'est un peu toujours le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que pour trouver une distribution, il faut avoir fait beaucoup de concerts maintenant, pour avoir des salles de concerts pour jouer. Bon, déjà financièrement, il faut louer, donc ça c'est cher, et puis derrière on te demande aussi d'être distribué, donc tu vois, tu arrives à une espèce de serpent qui se mord la queue, puis pareil après pour aller signer dans les maisons de disques, on te demande aussi d'avoir déjà des disques, d'être déjà distribué. Enfin, il y a une espèce de cercle qui est assez quadrature du cercle, qui est pas évident à briser. Donc déjà, ouais, non, je suis déjà hyper content de pouvoir être aussi largement diffusé, de pouvoir distribuer dans les bacs. Je croise les doigts. Donc ça déjà, c'est en soi. Et puis bon, on a fait une belle salle, là, Sentier Idéal, qui est une belle salle parisienne. On va faire bientôt début mi-avril le New Morning à Paris, qui est une très belle salle. Donc bon, voilà, ça reste de l'autoproduction, on fait avec les moyens du bord, mais on essaie de faire faire les choses bien. Et puis bah, petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc j'espère qu'une fois distribué dans les bacs, ça attirera un petit peu plus l'intérêt des médias. Et puis j'ai beaucoup de soutien grâce à des radios indépendantes que je remercie mille fois de laisser aussi la place à des artistes comme nous, qui ne sont pas forcément signés dans des majors et qui n'ont pas les attachés de presse et toute la puissance, je dirais, de feu des majors pour être bombardés sur toutes les radios. Donc merci à vous qui est encore un peu un espace pour les artistes indépendants, comme on dit, pour pouvoir être diffusés, avoir un peu de feedback, les gens viennent sur nos sites, achètent nos disques, nous envoient des emails, et c'est grâce à des radios comme les vôtres, en fait. Hein.
C'est aussi se montrer sur scène, c'est se montrer sur scène, parce que le public est là aussi, donc il n'est pas toujours l'oreille collée à la radio, il va au concert aussi.
Heureusement qu'il y a encore effectivement cet espace de scène où les gens viennent, et puis ça crée du buzz, et tu t'aperçois aussi que parfois il faut avant tout faire de la musique pour plaire à un public, plutôt que de faire de la musique aussi pour se dire tiens, ça va vraiment plaire au major, et voilà, parce que bon, moi la première satisfaction, ouais, c'est quand t'as la salle qui est debout à la fin du concert, qui t'envoie des roses ou des pluches et des choses comme ça. Enfin, ça c'est des souvenirs pour toute une vie, et bon, après bah tant mieux si la mayonnaise prend plus ou pas, mais c'est déjà vraiment génial de jouer à guichet fermé, c'est déjà un plaisir absolument fabuleux, quoi, ça c'est clair, ouais.
Bon, alors pour nos amis auditeurs qui t'écoutent, je rappelle donc Le Monde de Gaby. Alors cet album, ils pourront le trouver bientôt dans les bacs, ou on peut le trouver par internet aussi ou pas?
Alors déjà, le plus simple, c'est qu'ils aillent sur le site myspace.com/lemondedegaby, ou aussi un autre site internet qui est créé sur l'album qui s'appelle Le Monde de Gaby. De toute façon, en tapant sur Google Le Monde de Gaby, ils accèdent à mes sites, et sur mes sites, il y a tous les moyens inimaginables pour recevoir l'album. On fait même maintenant, j'ai mis en place un système avec mon label, enfin, de la vente par correspondance. L'album à moins de 10 €, je crois que vous l'avez en 48 heures en dur, vous pouvez le télécharger en MP3, si vous avez un iPod vous pouvez le télécharger sur iTunes. Qu'ils aillent vraiment sur mes sites, il y a toutes les informations nécessaires pour recevoir l'album, et qu'ils fassent aussi un tour sur le site d'Offrons l'école, parce que c'est aussi une belle initiative.
Voilà mon cher Gaby, je pense que nos auditeurs te connaissent un peu plus. Je voulais aussi te remercier parce que tu as offert des albums, une dizaine d'albums à nos amis auditeurs qui sont peut-être en train de l'écouter, qui te découvrent également un peu plus aujourd'hui grâce à cette scène française.
Non, bah écoute, merci à toi de m'avoir accueilli dans ton émission. Je suis ravi de cette interview, et puis bah je vous donnerai régulièrement des
nouvelles.
Des nouvelles. Merci à toi.
Y a-t-il un contact, tiens, si avant de vraiment terminer, si éventuellement il y a des salles qui voudraient accueillir Le Monde de Gaby, on peut contacter toujours par MySpace toujours.
Ouais, pas de problème. Sur MySpace, il y a toutes les indications, la boîte email, c'est info@lemondedegaby.com. Il y a aussi via mon site Le Monde de Gaby, il y a le dossier de presse, il y a tous les contacts, enfin il y a tout ce qu'il faut pour me contacter s'il y a des
je lance un grand message s'il y a des producteurs intéressés.
Puis faut dire,
pour mettre un peu le bazar sur scène, il n'y a pas de problème, on sera toujours là avec les musiciens.
Faut dire aussi que le monde de MySpace est un beau monde pour vous les artistes aussi, hein.
Ouais, non, c'est extraordinaire, et maintenant ça devient un peu trop Bon, c'est un peu pollué parce que bon, dès qu'un truc devient un peu médiatique, mais moi je bénis tous les jours parce que ça te donne au moins une existence, ça te permet de, moi ça m'a permis de trouver des salles, les gens vont sur ton site d'écouter, ça permet aussi de, moi ça m'a permis aussi au début, avant même d'avoir pressé physiquement les albums, de savoir qu'il y avait quelques radios qui allaient me diffuser, donc tu vois ça motive beaucoup, et puis ça m'a permis de rencontrer aussi surtout avant tout aussi mes musiciens et puis discuter avec les gens te laissent des commentaires, donc c'est ouais ça donne beaucoup de baume au cœur parce que voilà ça permet d'avoir un petit public de gens fidèles qui demandent de tes nouvelles, qui viennent te voir en concert, et ça c'est quand même assez génial. Ouais.
Christophe, il est temps de nous quitter. Je rappelle le titre de ton album qui sera prochainement dans les bacs, on te le souhaite bien sûr, sinon bon, on va sur ton site, Le Monde de Gaby. On va se quitter, tiens, justement avec Je n'attends rien. Tu attends quelque chose quand même.
Ouais, c'est un gros, 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 gros clin d'œil cette chanson en fait. Elle est liée à plusieurs niveaux, à la fois du côté de l'artiste qui rêverait d'avoir beaucoup plus de notoriété, on dirait qu'on l'a. C'est aussi c'est à lire vraiment en contresens cette chanson, et j'invite tout le monde à voir. Je fais un petit coup de pub, mais il y a un dessinateur très talentueux qui s'appelle Gabriel Kenel qui a réalisé le vidéoclip de Je n'attends rien qu'on peut voir sur YouTube, Dailymotion et aussi sur mon site, et que les gens aient jeté un coup d'œil au clip et puis aussi à tous les sites concernant cet artiste là. C'est un dessinateur fabuleux et je pense que vraiment il va exploser parce qu'il a vraiment un coup de patte incroyable quoi.
Voilà, et puis on se rend compte en regardant l'album que tu as beaucoup d'amis.
Bah, c'est le monde merveilleux de Gaby.
Gaby, merci d'avoir partagé un petit moment.
Merci à toi, merci à tous les auditeurs et à très bientôt j'espère.
À bientôt Gaby et bonne route comme on dit. Ciao ouais. Ciao.
Ciao ciao.
Épargnons, je te prie, un flot d'insultes et comportons-nous entre adultes. Je n'attends pas que tu pardonnes, je n'attends pas que tu m'étonnes. Je n'attends. Je n'attends rien, on dira des ni remises, ni pipeau, ni franchise. Que de trois paroles, et le temps qui gonfle, je n'attends, je n'attends rien. Belle promesse, ce ne fut somme toute qu'une histoire de fesses. Je n'attends pas de solution, je n'attends pas la solution. Je n'attends rien, ni radis, ni remise, ni pipeau, ni franchise. De trois paroles et le temps qui gonfle. Je n'attends, je n'attends rien. Je n'attends pas que tu baptises.
n'attends pas que tu bâtisses. Je n'attends pas que tu punisses. Je n'attends pas que tu bâtisses. Je n'attends pas que tu punisses. Je n'attends pas que tu bâtisses. Je n'attends pas que tu punisses. Je n'attends pas que tu bâtisses. Je n'attends pas que tu punisses. Je n'attends pas. Je n'attends, oui, je n'attends rien. Ni rabais, ni remise, ni pipeau, ni franchise. Que de trois paroles et le temps qui gonfle. Je n'attends, je n'attends.
Les auteurs, compositeurs et interprètes sont dans la scène française avec Jean-Marc. Scène française avec Francophane sur le www.francophaneavecas.fr.